pour ces moments que nous venons d'avoir, ces moments qui nous ont permis, Seigneur, de nous tourner vers toi, de nous approcher du trône sur lequel tu es assis, pour te louer, pour t'adorer, pour, Seigneur, faire monter vers toi une louange, une adoration, une reconnaissance, Seigneur, que tu agrées. Et nous sommes convaincus, Seigneur, que tu as reçu nos chants, nos cantiques, nos prières avec joie, car nous sommes ton peuple, le troupeau de ton pâturage. Nous sommes, ô Dieu, ce peuple mis à part, que tu destines, Seigneur, à partager un jour ton éternité glorieuse. Nous sommes, Seigneur, ces hommes et ces femmes que tu as sauvés par grâce, après nous avoir arrachés des griffes du diable, après nous avoir délivrés du pouvoir des ténèbres, après avoir, ô Dieu, brisé les liens et les chaînes dans lesquels nous nous trouvions, tu nous as fait entrer dans ton royaume. Tu nous as donné ce statut spécial et singulier d'enfants de Dieu. Et dans ton royaume, Seigneur, tu nous appelles à être actifs, à te servir. Quel bonheur et quelle grâce pour nous! Quel privilège, Seigneur, que celui que nous avons d'entrer avec assurance dans le Saint des Saints. Seigneur, merci. Merci pour tout. Nous voulons y rester. Et à partir, Seigneur, de ta présence, recevoir ta parole. Parle-nous ce matin. Dépose sur nos cœurs ta pensée. Parle-nous ce matin, Seigneur, visite-nous puissamment au travers de ta parole. Que cette parole puisse trouver des cœurs bien disposés. Disposés non seulement à la recevoir, mais aussi disposés à la mettre en pratique. Car c'est dans la mesure où nous mettons cette parole en pratique, dans la mesure, ô Dieu, où nous passons du stade de l'écoute au stade de l'agir, qu'alors cette parole devient réellement une bénédiction pour nous. Bénis ton serviteur, Seigneur, assistez-le, ô Dieu, alors qu'il va proclamer simplement ta parole. Merci pour chacun de nous, merci pour tout. Amen. Et gloire à Dieu, alléluia. Merci Seigneur, amen. Bien, depuis plusieurs jours, deux semaines déjà, nous sommes dans un programme d'intercession stratégique, un programme de prière dont le thème est « Passons sur l'autre rive ». Et beaucoup de choses ont été dites en rapport avec ce thème. Je bénis Dieu pour tous les messages qui ont été partagés durant ces jours consacrés à l'intercession, durant ce jour consacré à la prière. C'est pourquoi je voudrais revenir sur ce thème de la nécessité de passer sur l'autre rive. La nécessité, mes amis, de pouvoir à un moment se lever, laisser les choses derrière nous, laisser les bénédictions derrière nous, laisser les épreuves derrière nous, et puis passer sur l'autre rive. Car avec Dieu, mes amis, nous sommes appelés à aller de l'avant. Il n'y a pas de terminus ici-bas. Il n'y a pas de destination. La destination, c'est là-haut. Alors ne craignons point lorsque le moment arrive, lorsque le temps vient de passer sur l'autre rive. Donc notre thème de ce dimanche matin est « Le temps est venu de passer sur l'autre rive ». Alléluia. Gloire au Seigneur. Et nous allons lire d'abord dans Marc chapitre 4. Nous allons lire les deux premiers versets du chapitre 4. Tu peux arrêter là. Donc, le chapitre 4 de l'évangile de Marc, les deux premiers versets. Et puis ensuite, nous irons versets 33-35. Et enfin, nous terminerons notre lecture au chapitre 5, le 3, premier verset. Nous lisons, verset 1er de Marc 4, « Jésus s'est mis de nouveau à enseigner au bord de la mer. Il s'assembla auprès de lui une si grande foule qu'il monta s'asseoir dans une barque sur la mer. Toute la foule était à terre près de la mer. Il les enseignait longuement en paroles et leur disait dans son enseignement, tout ce qui suit, on n'a pas le temps de tout lire. Nous allons verset 35. Là, c'est par beaucoup de paraboles de ce genre qu'il leur annonçait la parole selon qu'ils étaient capables de l'entendre. Il ne leur parlait pas sans paraboles, mais en privé, il expliquait tout à ses disciples. Chapitre 5, verset 1er, ils arrivèrent sur l'autre rive de la mer dans le pays des Géraséniens ou des Garadéniens, c'est pareil. Aussitôt que Jésus débarquait, un homme sortant de tombeau et possédé d'un esprit impur vint au-devant de lui. Il avait sa demeure dans le tombeau et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. Gloire à Dieu. Vous connaissez la suite. Nous avons pris beaucoup de temps pour parler de ce qui s'était passé sur cette rive-là, ce soir-là, lorsque le Seigneur, y avait posé ses pieds. C'est donc la délivrance, la libération de cet homme qui était captif, dont la vie était devenue une véritable résidence démoniaque. Comme vous pouvez vous en douter, notre thème est tiré, évidemment, de ce chapitre 4 de Marc, verset 35, où il est dit, ce même jour, sur le soir, ce même jour, alors que le soir approchait, alors que le soir était là, le Seigneur, au lieu de demander à ses disciples de rentrer dans leur maison, de regagner leur pénate, de se reposer, pas du tout, il leur propose, il leur demande de passer sur l'autre rive. Que faisait-il sur ces rivages-là? Que faisait-il sur cette berge? Avant qu'il leur demande, mes amis, de prendre un autre cap, de prendre place à bord de la barque et de se diriger vers l'autre rive. Eh bien, nous l'avons lu. Sur cette berge-là, sur ce bord-là, le Seigneur a enseigné. Le Seigneur a proclamé sa parole. Il y avait des foules, il y avait ses disciples. Ils étaient là, en présence du plus grand enseignant qui soit. Ils étaient là en présence de celui dont la parole est esprit et vie. Une parole qui transforme, une parole qui change des vies, qui métamorphose des existences. Sur cette berge-là, il leur a communiqué la vie au travers de sa parole. Il leur a donné la bénédiction par sa parole toute puissante. Et l'évangile de Marc nous dit, sur le soir, après avoir annoncé l'évangile, après les avoir nourris de sa parole, après les avoir arrosés de sa présence par le biais, au moyen, au travers de sa parole, sur le soir, le Seigneur leur dit, passons sur l'autre rive. Ce qui est formidable, ce qui ne leur demande pas d'aller, il ne leur dit pas, allez monter dans la barque et partez. Mais il dit, c'est la première personne du pluriel, passons sur l'autre rive. Il s'élève lui-même pour partir avec eux, traverser la mer, pour aller sur l'autre rive, alléluia, gloire au Seigneur. Ils ont bénéficié de l'enseignement du docteur par excellence. La Bible nous dit que, dans les évangiles du moins, que jamais homme n'a parlé comme le Christ. Il est impossible d'être dans sa présence, d'être confronté en sa parole et de rester le même. On ne pouvait avoir que deux réactions. Soit on s'est laissé visiter par sa parole, soit on la recevait, mes amis, et cette parole accomplissait l'œuvre de Dieu, une œuvre de transformation et de métamorphose, soit alors, à cause de l'incrédulité, à cause des préjugés ou des a priori négatifs, on rejetait cette parole et on partait dans la rébellion. Jamais homme n'a parlé comme lui. Les foules étaient enthousiastes à chaque fois qu'elle avait la grâce d'être dans sa présence. Là, le Seigneur enseignait, voyez-vous. Ils étaient au contact du feu de sa parole. Ils étaient au contact, mes amis, de la vie véritable, éclairée, mes amis, irradiés par sa parole. Ces moments étaient importants, car sans une véritable connaissance de la parole du Christ, il est impossible, mes amis, que nous devenions ses disciples. Sans une véritable connaissance de la parole, il est impossible d'avancer dans la vie et d'atteindre une certaine maturité, d'avoir une certaine sagesse dont nous avons besoin dans notre vie de tous les jours. N'a-t-il pas dit à ses disciples, dans Jean 8, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, et vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. » Alléluia. « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. » Donc, le disciple, celui qui demeure dans la parole du Christ, celui qui la mange, celui qui la boit, celui qui trouve son plaisir à la savourer, à s'en délecter. Et disciple, celui qui marche selon la parole. Mais comment demeurer dans sa parole si on ne la connaît pas? Comment demeurer dans sa parole, mes amis, si on n'a pas de contact permanent? Vous comprenez pourquoi nous vous encourageons très fortement à avoir des moments de lecture et de méditation de la Bible seul, là chez vous. N'attendez pas le dimanche pour enfin tendre une oreille attentive au Seigneur. Développez cette discipline de lire, de méditer la parole de Dieu. Il n'y a rien qui remplace la parole. C'est la parole, mes amis, qui nous permet de ressembler au Seigneur. Voilà pourquoi la Bible nous dit, soyez transformés, soyez métamorphosés par le renouvellement de votre intelligence. Et ce renouvellement-là est provoqué par la parole du Christ, alléluia. S'exposer constamment à la parole de Dieu, se s'ouvrir à la plus merveilleuse des influences qui soient. C'est accepter de manger quelque chose de vivant et de vivifiant. Ils ont entendu cette parole. Voyez-vous, ils l'ont mangé, ils l'ont dévoré, ils l'ont savouré, voyez-vous. Donc la connaissance de la parole est indispensable. Ayez développé cette discipline de la lire régulièrement, mes amis. Il y va de votre éternité. Ne passez pas tout votre temps à remplir votre cerveau de tel ou tel autre savoir. Oui, cela est important, voyez-vous. Ne faites pas partie de ce club, de ces hommes et de ces femmes qui cultivent l'inculture. Voyez-vous, soyez cultivés, lisez, voyez-vous, oxygénez votre intelligence par la lecture, par la réflexion, par la méditation. Ne dites pas oui. Oh, j'ai obtenu mon diplôme d'ingénieur civil en 88, quand l'Unikin était encore l'Unikin. Oh, j'ai obtenu mon doctorat en médecine à Gand, il y a 28 ans. C'est bien tout ça, mais attention, même un diplôme universitaire ne veut pas dire qu'on est arrivé au terminus du savoir. Nous devons rester enseignables. Nous devons entretenir notre cerveau, le combler, et surtout avec ce qui vient de la parole de Dieu. Car il y va de notre éternité, alléluia. La volonté de Dieu, mes amis, nous est exprimée dans cette parole de 2 Pierre, chapitre 3, verset 18. Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. À lui soit la gloire. Maintenant, et jusqu'au jour de l'éternité. Amen. Et gloire à Dieu. Donc c'est un moment important, un moment où ils reçoivent quelque chose qui concerne le royaume de Dieu, un moment où ils reçoivent quelque chose de vivant, mes amis, un moment où ils mangent, ils boivent ce qui vient tout droit du cœur même du Créateur. Et puis après, sur le soir, alors qu'il se serait attendu qu'il leur dise, écoutez, vous avez assez mangé, vous avez été merveilleux, vous avez reçu ma parole, elle a trouvé un écho positif dans vos cœurs, vous pouvez maintenant rentrer chacun dans sa maison, pas du tout. Sur le soir, eh oui, sur le soir, il leur demande de passer sur l'autre rive. Et nous avons vu ce qui s'est passé sur l'autre rive. Heureusement que le Seigneur avait traversé le lac de Galilée ou la mer de Galilée pour aller sur cette rive-là. Car sur cette rive-là, eh bien, le Seigneur va affronter le pouvoir des ténèbres. Sur cette rive-là, il y avait un homme qui était dans le besoin. Sur cette rive-là, il y avait un homme qui était possédé par des puissances démoniaques, l'homme de tombeau. Nous avons parlé de cet homme pendant plusieurs dimanches. Cet homme qui était complètement fou, cet homme qui était complètement vampirisé par le diable, possédé par des puissances démoniaques. Lorsque Jésus pose ses pieds sur cette berge, sur ses bords, sur cette rive-là, la Bible nous dit que ce fou des Gadara, cet homme qui terrorisait tout le monde, lui-même est terrorisé. Il est attiré par une puissance qui était plus puissante que celle qui le maintenait captif. Jésus-Christ. Sa seule présence a suffi pour mettre mal à l'aise les démons. Avant même qu'il prononce quoi que ce soit, la Bible nous dit que les démons commençaient à pousser des cris. C'était des cris de peur, des cris d'épouvante et de terreur. Ils étaient effrayés par la présence du Seigneur. Et là, dans cette rencontre de puissance, eh bien, Jésus va débarrasser cet homme de tous ces démons, de cette légion démoniaque qui habitait en lui. Les disciples qui avaient mangé sa parole sur l'autre berge, sur l'autre bord, cette fois-ci, ils assistent à une démonstration d'esprit et de puissance. Alléluia. Cette fois-ci, ils assistent, mes amis, à la manifestation de la gloire du Christ. Eh oui, la marche chrétienne, ce n'est pas simplement manger la parole et puis après partir. La marche chrétienne, c'est manger la parole et puis expérimenter la gloire du Christ. Voir que Jésus est tout puissant. Il est le seul qui puisse nous débarrasser de toutes sortes de casseroles que nous traînons. Le seul qui puisse briser les liens du diable dans lequel nous nous trouvons. Il n'y a que lui qui peut nous libérer de toute malédiction. Lui, le soleil levant, qui nous a visités d'en haut. Celui seul qui peut nous éclairer. Celui seul qui peut nous affranchir de toute forme d'esclavage, comme ça a été le cas de cet homme. Il est venu pour enseigner les principes du royaume. Il est venu pour montrer à l'homme le chemin qu'il doit prendre s'il compte un jour partager l'éternité glorieuse du Créateur. Il est venu pour nous donner, mes amis, des principes directeurs, nous donner, mes amis, des valeurs, les valeurs d'en haut. Il est venu pour tout cela, mais il est venu aussi pour démontrer la réalité du règne de Dieu. C'est un règne puissant. Et les disciples, sur cette rive-là, vont expérimenter une démonstration de puissance. Alléluia. Gloire à Dieu. Mes amis, nous sommes tous appelés à marcher avec le Seigneur. Nous sommes tous appelés à avancer avec le Seigneur. Et s'il y a une chose que nous devons savoir dans notre marche avec le Seigneur, c'est que cette marche n'est jamais linéaire. Le parcours avec Dieu ne va jamais en ligne droite. Pas du tout. Si on vous a enseigné cela, eh bien, enlevez de tels enseignements de votre cœur. Le Seigneur ne nous a jamais promis le paradis sur terre. Il n'a jamais dit, écoutez, je trace devant vous un boulevard bien asphalté. Vous n'avez qu'à le prendre fini. Il n'y a pas de feu, de circulation, il n'y a rien. Il n'y a pas de tournant. Une fois que vous êtes sur le boulevard, eh bien, vous pouvez dormir tranquillement, vous me laissez le volant, et moi je roule à du 400, 500 à l'heure. Non! Le chemin que le Seigneur nous propose est un chemin sinueux. C'est un chemin, mes amis, de terre, sur lequel il y a toutes sortes d'obstacles. Mais il nous dit, voici, je suis avec vous. Oh, alléluia. Donc, si tu passes par un tournant, si tu dois prendre des virages, eh bien, ne soyez pas effrayés. Ça fait partie de la réalité chrétienne. Nous devons arrêter avec tous ces enseignements bizarroïdes qui présente la vie chrétienne comme étant une vie exempte de toute épreuve. Voyez-vous, on ne voit que les gens prospèrent, qui vont de prospérité matérielle en prospérité financière, de prospérité financière en prospérité conjugale, de prospérité conjugale en prospérité spirituelle. Non, il y aura des épreuves, alléluia. Mais ce qui est merveilleux, c'est qu'il a dit là, lorsque vous serez confrontés aux épreuves, je suis avec vous. Gloire à Dieu. Notre vie est appelée à passer par différentes phases, différentes étapes, à connaître différentes saisons. C'est pourquoi n'hésitez pas. N'hésitez pas à entrer dans une nouvelle saison. Et quand tu entres, oublie ce qu'il y a derrière. Ne sois pas nostalgique. N'essaye pas de construire des tentes sur la berge où tu es, parce que tout est souris. Soyez de ceux qui se lancent de nouveaux défis. Oui, Dieu a fait des choses pour toi sur cette berge. Cela ne veut pas dire qu'il a épuisé toutes les grâces et les bénédictions auxquelles il t'est destiné. Non. Sur cette berge, tu as reçu ceci. Mais ne pense pas que c'est tout ce que Dieu a prévu pour toi. Non. Sois prêt à passer sur l'autre rive. Car sur l'autre rive, ce sont de nouvelles expériences qui t'attendent. Sur l'autre rive, ce sont de nouveaux défis à relever. Sur d'autres rives, eh bien, ce sont d'autres réalités auxquelles tu dois être confronté. Et ce qui est merveilleux, c'est que d'une rive à l'autre, le songe change. D'un rivage à l'autre, les réalités changent. Mais lui ne change pas. Gloire à Dieu. Il est toujours avec nous. Il t'envoie en Europe, il est avec toi, le même. Il te ramène au pays, il est avec toi, il reste le même. Où que tu sois, c'est pourquoi qu'ils soient, considérons Jésus comme étant notre présent et notre futur. Voyez-vous, ne nous appuyons pas sur les espérances promises par les hommes. Ça peut aller aujourd'hui, et puis demain, mal tourné. Personne ne maîtrise quoi que ce soit. Personne. Voyez-vous, ce ne sont ni les États-Unis, ni les Chinois, ni l'Union européenne qui dirige ce monde. Quelquefois, je rigole lorsque j'entends à la radio, je lis dans les journaux concernant ceux qui nous dirigent. Quand on parle du président américain, l'homme le plus puissant du monde, quand on parle de la chancelière allemande, la femme la plus puissante, ben, quelle puissance! Elle va passer. Elle était même tombée dans une réunion. Non. Certes, elles exercent, elles ont un certain pouvoir, tout cela est limité. Au-dessus de la chancelière allemande, au-dessus du président français, au-dessus du président américain, au-dessus du président chinois, il y a Jésus de Nazareth, le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois. Lui demeure éternellement. Oh, alléluia. Le monde a connu beaucoup de grands hommes, des grandes femmes, des rois, des empereurs. Tous sont passés. Tous. Où est Marc Aurèle, l'empereur et philosophe? Où est Jules César? Pourriez-vous me donner son numéro de GSM? Passé. Où est Charles de Gaulle, l'homme de l'appel du 18 juin, je crois? Il est passé. Winston Churchill, tous passeront. Aujourd'hui, si vous voulez le voir, c'est sur une pierre tombale que vous avez les derniers mots. Si j'y tel, ici repose, ou alors c'est leur buste. Vous passez, vous regardez, ils sont là, figés dans l'espace et dans le temps. Il est là avec son cigare pour l'éternité. C'est tout. Mais le nôtre, il est vivant. Ceux qui sont partis au tombeau pour aller voir la dépouille, soi-disant, du Seigneur, les anges leur ont dit, mais pourquoi vous cherchez le vivant parmi les morts? Mes amis, nous avons toutes les raisons de nous accrocher à Christ. Passons sur l'autre rive. Oui, notre vie est appelée, disais-je, à passer par toutes sortes de phases, à aller de rivage en rivage, de bord en bord, de berge en berge. Et chaque rivage, chaque berge est différente. Vous voyez, les réalités sont différentes. Quelquefois, on se retrouve sur le bord où le sable est clair. L'eau, quand on est sur le bord là, on regarde l'eau qui est claire, limpide, merveilleuse, qui est merveilleuse, on se dit formidable. Oh, que Dieu est bon et tout ça, on peut y marcher. On regarde comment le paysage, le relief, le long de ce bord, on dit c'est formidable, oui. Mais on peut arriver sur l'autre bord, ben, qu'est-ce qu'on voit? Ben, on voit des coquilles, de certaines bestioles aquatiques. Qu'est-ce qu'on voit? Ben, on voit des galets, des cailloux qui peuvent même nous blesser. Nous devons faire très attention, voyez-vous? Donc, d'une berge à l'autre, ça change. Mais comme je viens de le dire, lui ne change pas, alléluia. Et à chaque étape de notre vie, à chaque fois que nous passons d'un rivage à un autre, le Seigneur a quelque chose à nous révéler, alléluia. Il ne fait jamais les choses au hasard. S'il nous demande d'aller sur notre rive, n'hésitons pas. C'est vrai que ça ne sera pas facile. Et du reste, ça n'a pas été facile pour les disciples, puisqu'ils ont dû affronter une bourrasque subite qui s'est abattu sur cette mer, sur le lac de Galilée. Et chaque étape, mes amis, dans notre parcours avec le Seigneur, ne doit jamais être considérée comme étant une destination, comme un terminus. Quand vous prenez un bus, voyez-vous, ben, vous partez du point A vers le point B. Donc, il y a la gare ou l'arrêt où vous prenez les bus, ou le train, que sais-je, et puis vous arrivez à destination, vous descendez. Chaque étape, tant que nous sommes sur cette terre, il n'y aura pas d'étape définitive. Nous devrons toujours nous lever et partir. Nous sommes des pèlerins ici sur terre, alléluia. Que ça soit, donc, nous pouvons nous retrouver sur une berge, ce sont de nouvelles fonctions, ce sont un nouveau challenge, ce sont de nouvelles réalités. Mais il n'est pas dit que nous resterons dans cette réalité-là ad vitam aeternam. Laissons-nous conduire par le Seigneur. Et si le moment arrive pour nous de partir sur l'autre rive, n'hésitons pas. Certes, en regardant, on peut être effrayé, ce qui a été le cas pour eux, mes amis, pour les disciples. Je vais y revenir. Eh oui, à chaque étape de notre vie, sa révélation. À chaque rivage, son expérience. Alléluia. L'expérience qu'ils ont faite sur l'autre berge, c'était l'enseignement. Ils l'ont mangé, etc. Et quand ils arrivent sur l'autre rivage, sur l'autre rive, eh bien, c'est une démonstration de puissance. Alléluia. Oui, la marche avec le Seigneur est ainsi faite. Que nous dit la Bible à propos de notre vie par rapport à ceux qui veulent s'attacher aux réalités présentes qui constituent cette étape dans laquelle le Seigneur nous a fait entrer, qui constitue cette berge sur laquelle nous nous trouvons? Que nous dit la Bible à propos de notre vie qui est une marche avec lui? Eh bien, la Bible nous dit que nous sommes l'ouvrage de Dieu, Éphésiens 2, 10. Nous sommes l'ouvrage de Dieu. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes, pour des œuvres glorieuses que Dieu a préparées d'avance afin que nous les accomplissions. Littéralement, des œuvres bonnes, des œuvres glorieuses, magnifiques, extraordinaires, puissantes, que Dieu a préparées afin que nous y marchions. Oh, alléluia. Maintenant, ces œuvres-là de gloire, ces œuvres bonnes, ces œuvres extraordinaires qu'il a préparées pour nous afin que nous puissions les accomplir, ces œuvres-là ne peuvent pas toutes être accomplies sur un seul rivage, en une seule étape. Nous le verrons aussi avec le peuple d'Israël. Pas du tout. À chaque étape, il y a des œuvres qu'il avait déjà prévues. Alléluia. Jésus ne marchait pas comme ça au gré des événements, de manière instinctive, non, pas du tout. Il était conduit par le Saint-Esprit. Lors de son incarnation, il est né de l'Esprit. Il était rempli de l'Esprit. Il était conduit par l'Esprit. Alléluia. Donc, pour lui, ce n'était pas une surprise. Il connaît toutes choses avant que toutes choses n'arrivent. Alléluia. Ces œuvres que Dieu a prévues pour chaque étape de notre vie, eh bien, nous ne pouvons les accomplir que dans la mesure où nous nous laissons conduire par lui. Voilà pourquoi nous devons lui faire confiance. Celui qui dicte les tempos, celui qui détermine les événements qui nous entourent, maintenant là, alors que tu m'écoutes, tu connais la nature des événements qui t'entourent. Et par rapport à ces événements, tu peux avoir plusieurs lectures. Tu peux te dire, oh là là, c'est pas possible. J'aurais aimé que les choses se passent autrement. J'aurais aimé ne pas être sur ce rivage, être plutôt sur l'autre rive. Mais le Seigneur sait, alléluia. Il sait pourquoi il t'a conduit là, sur ce rivage. Pour le moment, eh bien, tout va mal. Mais ne t'en fais pas. Tant que lui est dans la barque, tu arriveras à bord. À bon port, voulais-je dire. Alléluia. Il maîtrise les événements. N'est-il pas le maître des temps et des circonstances? Aucun événement ne peut lui échapper. En montant dans cette barque, sur instruction du Seigneur, sur la parole du Seigneur, les disciples du Christ, ceux-là même qui venaient de manger sa parole, ceux-là même qui avaient été au bénéfice, mes amis, de son enseignement vivant et vivifiant, ces disciples-là étaient loin de s'imaginer ce qui les attendait sur l'autre rive. Voilà. Non seulement ils ne savaient pas ce qui les attendait, mais en plus, c'était le soir. La Bible est claire, hein? Le jour était sur le soir. C'était le soir. Pour eux, le moment n'était pas opportun. Le moment était mal choisi. Puisqu'ils connaissaient très bien le lac de Galilée. Ils savaient qu'il arrivait souvent le soir. Vous savez, quand vous avez des masses d'eau chaud, d'air chaud qui viennent rencontrer l'air froid, ça crée des tempêtes, des tourbillons, c'est ça. Ils savaient ça. Donc, pour eux, ils connaissaient que ce n'était pas le moment opportun. Il y avait risque de tempête, avec possibilité de couler, de faire naufrage, voyez-vous. Ils savaient tout cela, et en plus, en pleine navigation, ayant pris, étant monté dans la barque, s'étant lancé dans la navigation sur instruction du Seigneur, la Bible nous dit en pleine navigation, une forte bourrasque fondit sur eux, une tempête forte tomba sur le lac de Galilée, soulevant des vagues d'eau qui commençaient à se jeter dans la barque. Ils ont commencé à affronter une mer agitée, une mer en furie. Qui pouvait s'imaginer? Je suis convaincu que certains se sont dit, en se regardant, c'est pas possible. Il eût fallu qu'on ne prenne pas la mer. Est-ce qu'on ne pouvait pas attendre demain? Lorsque toutes les conditions, les bonnes conditions, seraient réunies, en plein jour, on peut voir, tiens, il y a un nuage, attends, faisons attention, etc. Il eût fallu attendre. Et voilà, on a pris le risque de partir. Voilà ce qui nous arrive. Plus moyen de revenir en arrière. Eh oui. Il y a un proverbe qui dit ceci. Écoutez-moi bien. Quand vous vous êtes engagé au milieu de la rivière, ce n'est plus le moment de se demander si vous avez choisi le bon cheval. Et encore moins de vouloir changer de cheval. Chez nous, nous pourrions dire, si vous êtes engagé au milieu de la rivière, ce n'est plus le moment de vous demander si vous avez pris la bonne pirogue. Et encore moins de changer de pirogue. C'est trop tard. Il faut réfléchir. Faites attention. C'est un proverbe qu'on peut appliquer à tout, hein. Avant de vous engager avec quelqu'un, de monter dans la pirogue de quelqu'un, soyez sûr que vous arriverez sur l'autre rivage. Soyez sûr. Car il peut arriver que, au milieu de la rivière, vous rendez compte que la pirogue n'était pas celle qu'il fallait. Et là, c'est... Attention. Vous êtes au milieu de la rivière. Et c'est seulement à ce moment-là, vous vous réveillez, vous dites, tiens, est-ce que le cheval sur lequel je suis monté va-t-il me permettre de traverser la rivière? Peu importe, le cheval sur lequel vous êtes monté peut vous faire traverser la rivière, à condition que ça soit le cheval blanc de l'Apocalypse, qui est monté par un cavalier qui s'appelle Fidèle et Véritable. Avec lui, peu importe, mes amis, le courant marin, peu importe la profondeur de la mer, peu importe la tempête, quand vous êtes sur ce cheval et que vous le tenez, lui, le cavalier tout puissant, eh bien, soyez sûr, ne vous posez même pas des questions si vous avez choisi le bon cheval. Ne vous posez pas la question si vous avez pris la bonne pirogue. Avec lui, vous arriverez à destination. Voyez-vous, tant que Jésus était dans la barque, ses disciples n'avaient rien à craindre. La barque ne pouvait pas couler. Eh oui, faisons attention. Avant de nous engager, soyons sûrs que nous sommes avec le Seigneur. Voyez-vous, avant de pouvoir choisir des gens qui vont travailler avec nous, réfléchissons. Vous savez, c'est l'ancien président américain John Fitzgerald Kennedy qui a dit ceci à propos de la réussite. Écoutez-moi bien, vous qui dirigez et tout ça. Il avait dit ceci, l'art de la réussite, c'est savoir s'entourer des meilleurs. Vous savez ça? Si vous allez, vous vous faites entourer par des opportunistes, par des filous, par des rapaces, par des gens apathiques, par des non-professionnels, des amateurs, comment voulez-vous que ces gens puissent vous propulser vers l'excellence? Il faut voir quelle pirogue. Qui est avec vous dans la pirogue? Et même si la pirogue vaut vraiment la peine d'être utilisée pour traverser la mer. Mais quand Jésus est là, eh bien, nous pouvons même faire de bons choix. Alléluia. Car dans la vie, nous devons toujours chercher à nous améliorer. Fréquentez les gens qui ont pour culture l'excellence, qui ont une certaine éthique, et ils vous tireront vers le haut. Voyez. Mais, si vous dites, oh voilà, oui, mais lui, on a grandi ensemble, on a joué au foot à Bandal et tout ça. Ah, comment? Dis, tu es ministre? Oh, je suis ministre. Qu'est-ce que tu fais? Mais je ne fais rien, viens, je vais te prendre au cabinet. Tu le prends parce que vous avez joué au foot. Mais la responsabilité que vous avez n'a rien à voir avec les règles du foot. Hein? Oh non, on a fumé ensemble l'herbe. Oui, mais là, ce n'est plus... Oh oui, mais je vais voir et tout ça... Comment je peux l'aider? Oui, mais on peut l'aider sans pour autant l'amener à vos côtés. Il peut vous ramener à la consommation de l'herbe. Hein? Eh oui. Donc nous devons faire très attention. Soyons avec des gens qui nous tirent vers le haut. Alléluia. Et non pas qui vont nous tirer vers les bas. Des gens non professionnels, des amateurs diplômés. Des gens apathiques qui sont toujours là, toujours à murmurer. Non. Soyons avec des gens qui nous aident, voilà, et qui nous donnent des bons conseils. Voilà pour ceci, faisons ceci. Alors nous avancerons. Alléluia. Donc, Jésus a dit, passons sur l'autre rive. Comme je l'ai souligné, c'est à la première personne du pluriel, nous. Passons. Il est donc avec eux. Alléluia. Il n'est pas comme certains sages, certains chefs religieux qui vous disent, non, précédez-moi. Allez d'abord voir, après vous me direz quoi. Non. Lui, il se tient aux côtés de ses disciples. Voici, je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. Oh, alléluia. Quelle assurance, quelle sécurité. Si lui est dans la barque et qu'il nous demande de passer sur l'autre rive, n'hésitons pas, mes amis. N'essayons pas de rester, car il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour être sur tel rivage et d'expérimenter telle bénédiction, telle merveille de Dieu. Il y a un temps pour être sur tel rivage, être confronté à telle épreuve, rencontrer la souffrance. Voyez-vous? Mais il y a aussi un temps où il faut passer sur l'autre rivage. Peu importe ce qui nous attend. Car ce qui arrive généralement, lorsqu'on est quelque part, on arrive dans une étape de notre vie où tout nous sourit, tout baigne dans l'huile. Voyez-vous? Le succès nous accompagne, la réussite est notre partage, et quelquefois on est même étonné. Tous les choix que nous faisons réussissent, finissent toujours par porter du fruit formidable. Mais le risque de tout cela, c'est que nous risquons de vouloir construire des tentes pour y rester. N'est-ce pas? Nous risquons de croire que c'est ça. Après ça, il n'y a plus rien. Non. Avec lui, il y a toujours de nouveaux défis. Et je crois que les gens, les hommes les plus riches, le savent. Voyez-vous? J'ai parlé avec un homme d'affaires, j'étais émerveillé de ses analyses, de ses observations. Quand il passe en Kinshasa, il voit toutes sortes d'opportunités que moi, je n'aurais jamais vues. Regardez, il y a combien d'habitants Kinshasa? Combien? 12, 13, voilà, 15, certains, mais enfin, il n'y a que Dieu qui sait exactement. Et parmi ces 12, 15 millions, il y a beaucoup de femmes, non? Mais ces femmes ont besoin d'avoir des cheveux tressés, les soins de cheveux. Voilà. Vous pouvez voir une opportunité, vous ouvrez un salon, vous allez avoir la clientèle, non? Vous cherchez seulement à aller en Europe. Ceux qui sont là-bas reviennent. Les gens partent du Liban, partent d'Inde, du Pakistan pour venir ici. Et ce qui est terrible, c'est que nous, n'ayant rien fait, et ils font, nous commençons à les en vouloir. Qu'est-ce que vous avez fait? Nous étions là seulement à critiquer. Oh, on ne cherche que la politique. C'est ça le mal du Congolais. On pense que le seul moyen de servir la République, c'est faire de la politique. Ah, alors vous voyez tout le monde. On fait le droit pour être homme politique. On fait ceci pour être homme politique. Ils sont tous dans le parti. Je ne sais pas s'il y a un pays qui abrite autant de partis politiques comme notre pays. C'est pas possible. Ouais. C'est tous les jours qu'on crée des partis. Ouais. Ligue pour le... Bientôt, les mangeurs de foufous vont faire leur parti. Oui, oui. Et pourquoi pas? Le congrès de ceci, l'alliance de cela, et ça distrait. Laissez-moi vous dire une chose. Voilà, ça distrait. Alors la jeunesse pense, vous les jeunes, vous pouvez servir la République autrement. Vous pouvez servir la République autrement, pas seulement en étant dans la fonction publique. Oui. Ah non, parce que là-bas, on signe seulement. Mais vous favorisez le mal. J'ai entendu quelqu'un dire, oui, j'ai matriqué. Je pars seulement pour retirer mes 500 000 francs. Écoutez, vous êtes chrétien, vous priez en langue. Vous volez. Parce que les 500 000 là doivent provenir de quelque part. Des contribuables, des gens qui travaillent, qui payent leurs impôts. Non, vous, là, non, mon oncle est ministre, hop, sur la liste. On m'a dit qu'un ministre, depuis qu'il est passé par là, on a l'impression que maintenant, la quasi-totalité des Congolais est devenue fonctionnaire. Attention. Voyez-vous. Attention, mes amis. C'est bien. C'est bien de travailler. Maintenant, si vous remplissez les critères, il n'y a pas de problème, hein? C'est peut-être ça qui nous ferme la porte de certains investissements. Quand on regarde, dit combien vous payez la fonction publique, oh! Ils prennent la poudre d'escampette. Ma fête. Donc, nous devons aller accepter le nouveau défi, alléluia. Là, s'il nous dit, allons sur l'autre rive, n'hésitons pas, voyez-vous, et ne courons pas le risque de construire les tentes comme nous le ferons, nous le verrons prochainement, où tout va très bien. Puisque tout va très bien, pourquoi se lever et partir? Voyez-vous? Et c'est comme ça que certains sont passés à côté. Parce que, souvent, en s'asseyant, on finit par développer cette culture de la facilité. Vous savez, quelqu'un a dit à juste titre, ce qui fait les grandes œuvres, plutôt ce n'est pas la force, mais la persévérance qui fait les grandes œuvres. C'est la persévérance. Voilà. Il y a des gens qui étaient très intelligents, qui avaient une force morale, spirituelle, extraordinaire, intellectuelle, mais qui n'ont pas été loin. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont jamais été persévérants. Être persévérant, c'est quoi? C'est être constant dans ses efforts, en dépit des échecs. On s'est fixé un objectif, on doit l'atteindre. Même s'il faut dormir sur le carreau, on dort. On s'est fixé un objectif. On veut l'atteindre d'ici la fin du mois. Même s'il faut aller chercher la marchandise sous la pluie, eh bien, on le fait. Voilà les objectifs. Mais si vous vous réveillez, et vous, ah, il y a la pluie, ah non. J'irai quand la pluie va s'arrêter. Mais ici, chez nous, on sait quand ça commence, la pluie, hein, mais jamais quand ça s'arrête. Et si ça continue toute la journée, dis, ah, je vais rester. Et tu restes. Ce que tu aurais dû faire hier, aujourd'hui, tu ne le fais pas. Demain, tu vas essayer de faire ce que tu aurais dû faire aujourd'hui, et tu accumules des retards, et puis un jour, plus de marchandises. Voyez-vous? Il faut être persévérant. On a connu une dame qui avait ouvert un magasin, quelque part, exotique. Pour les produits africains, de l'autre côté, en Europe, ça marchait très bien, mais à un moment, voyons, la personne venait quand elle voulait. Oui, quand vous alliez là-bas pour chercher quelque chose, vous deviez attendre. Attendre, et puis finalement, les gens se sont fatigués. Ils préféraient aller dans une autre ville, payer un transport ou prendre leur véhicule, puisque là, c'était sûr. Et vous savez ce qui est arrivé? C'est que le magasin finit par disparaître. C'est comme ça, la persévérance. Et la Bible nous demande quoi? Persévérez. Soyez persévérants. Soyez endurants. Aujourd'hui, ça ne va pas. Ne baissez pas les bras. Vous êtes fixé un cap, restez fidèle à votre cap. Alléluia. Allez de l'avant. Et je terminerai en disant qu'il y a toujours des choses à découvrir avec le Seigneur quand il nous amène sur un rivage. À chaque rivage, il veut nous accorder des choses particulières. Et quelquefois des choses auxquelles on n'avait jamais pensé. Des choses que notre œil n'a pas vues. Des choses que notre oreille n'a pas entendues. Des choses qui ne sont jamais montées à notre cœur. Mais pourtant des choses que Dieu a préparées d'avance. Pour que nous les accomplissions en passant sur l'autre rive. Vous savez, il y a de nouvelles opportunités qui ne se présentent que si vous acceptez de quitter le rivage sur lequel vous êtes. Pour aller sur une autre rive. C'est comme ça. Et là, vous vous rendez compte, mais tiens, c'est vrai, ici, je peux investir dans tel domaine, je peux investir dans tel autre domaine. Mais si vous vous restez, parce que traditionnellement parlant, la famille a toujours habité dans ce quartier-là. Je suis né sur la rue Malembankulu, à Makala. Mon père est né la rue juste à côté. Pourquoi je dois partir? Vous restez sur la rue Malembankou, la Makala. Voyez? Et puis, vous faites des enfants. Vous les encouragez aussi à s'installer là. Voyez? Leur horizon, c'est quoi? C'est cette rue-là. Voilà, les copains, ah, master. Comment, hein? Ah, yaka, hein? Mais bien, quoi? Non, on va faire un petit tour ici, à côté de la prison. Voilà. Vous tournez autour de la prison. Tout ce que vous connaissez, comme réalité, c'est la prison de Makal. Vous risquez un jour d'être tenté de savoir ce qu'il y a derrière le mur. Et généralement, quand vous allez découvrir ce qu'il y a derrière le mur, là, vous criez, vous poussez un cri, vous dites, oh, comme les démons de Gadara. C'est comme ça. Trop tard. Voyez, lancez-vous de nouveaux défis. Acceptez d'aller sur l'autre rivage. Ce n'est pas facile, tant mieux. Alléluia. Les étudiants qui vont loin, ce sont des étudiants qui persévèrent. Ils ont échoué la première année, ils ne baissent pas les bras. Ils s'asseyent avant de reprendre l'année en disant, pourquoi j'ai échoué? Qu'est-ce qui a fait que je ne décroche pas ou je ne passe pas en classe supérieure? Ok, prochainement je vais m'améliorer. Je me rends compte que j'ai passé beaucoup de temps à aller errer en vadrouille et tout ça. Donc voilà, et puis on refait l'année. Et puis on termine, on passe en deuxième. Vous voyez, quelqu'un m'avait dit, il avait fait 7 ans, 8 ans pour terminer les études de droit. Eh oui, il a persévéré. Aujourd'hui, il est avocat. Dans un barreau quelque part en Europe. Hein. Ouais. Mais ici, on a échoué, tout c'est fini. Article 15. Voilà. On commence à se renseigner sur le professeur pour lequel on n'a pas travaillé, tout, dont le cours a été la mer à boire pour nous. Il est originaire d'où? Ah, de Kalembelembe. Alors, on va essayer de voir un oncle qui est au parti, s'il ne connaîtrait pas quelqu'un de cette région-là, qui pourrait aller voir le professeur pour lui dire, écoutez, j'ai un petit... Bon, c'est moi qui le supporte. S'il échoue là, ça va me coûter encore cher. Oui. Non, arrêtons ça. Et c'est comme ça qu'on fabrique des gens, quand ils terminent à la fin des études, il a son diplôme universitaire, il est incapable de vous rédiger une lettre de motivation. Il est incapable d'écrire correctement. Voyez-vous? Et quelquefois, je parlais avec quelqu'un, il me dit, Fasseur, je fais les études de droit. J'ai pris un temps pour parler avec lui et je termine. Je me suis dit, mais dans quelle langue il défend? Alors, je ne sais pas si à Kinshasa, il y a des barreaux où les avocats défendent leurs clients en lingala. Enfin, je ne sais pas. Je vous assure, c'était plus que du massacre de la langue de Voltaire. Comment rédiger? Il faut se dire la vérité. Voyez? Mais mieux vaut reprendre une année deux fois et puis passer en ayant reçu les prérequis indispensables pour l'année après, ainsi de suite. Et quand on va arriver à la fin, vous savez, la satisfaction, comme quelqu'un a dit, ce n'est pas tant le résultat, mais c'est le fait d'avoir enduré, d'avoir travaillé et de s'être dit, il a plu, je suis quand même parti. Je me suis retrouvé sans argent pour prendre un esprit des morts qui m'amène à l'université. J'ai marché à pied. Et aujourd'hui, je suis arrivé. C'est le résultat, là, l'effort. Parce que cet effort aura développé en vous un caractère de battant, un caractère endurant, un caractère persévérant. Acclamons son nom. Gloire à Dieu. Nous allons incliner nos têtes dans la prière. Seigneur, nous voulons te dire merci pour ta parole. Tu nous appelles à marcher avec toi, et dans cette marche, nous sommes appelés à passer par différentes étapes. Seigneur, à connaître différentes saisons. D'une étape à l'autre, les choses ne se présentent pas toujours de la même façon. D'un rivage à l'autre, Seigneur, nous avons affaire à de nouvelles réalités. Mais ce qui est formidable, c'est que toi, tu ne changes point. Si tu nous demandes de quitter un bord pour un autre rivage, de quitter une berge pour l'autre rive, c'est que tu as des raisons. C'est que il y a des choses que tu as préparées d'avance qui ne pourraient être accomplies que si nous allons sur l'autre rive. Alors aide-nous à ne pas être de ceux qui cherchent à dresser des tentes pour y rester, à croiser les bras, à tourner les pouces, mais plutôt à chercher à toujours avancer avec toi. Car il y a encore des choses à faire avec toi. Il y a encore de nouvelles expériences à faire. Il y a encore de nouvelles bénédictions à recevoir de ta part. Il y a encore de nouvelles révélations de ta part que tu aimerais donner à chaque étape de notre vie. Seigneur, tu as des choses particulières à nous communiquer. Alors aide-nous. Aide-nous à avoir toujours nos regards rivés sur toi, nos yeux fixés sur toi et à nous laisser conduire par ton Saint-Esprit. Merci Jésus. Merci pour tout. Merci également.